fièvre, c'est encore lui ma meilleure sève. Et même s'il faut que j'en crève, j'ai rien que son nom sur les lèvres. Je sais que c'est une peine bien terrible et bien quétaine. Elle me tient lieu de laine, c'est ma sœur et ma gardienne. J'ai une peine d'amour minable, 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 absolument minable, minable. Elle est épouvantablement minable.
Gilou est chef du personnel ou d'autres choses, on ne sait pas très bien. Il est doué d'un talent exceptionnel, paraître utile, lui qui ne sert à rien. Il est connu dans toute l'entreprise, montré du doigt, désigné du menton. Sur son passage, on chuchote, on méprise, mais il est le chouchou du grand patron. Article 1, le chef ne sert à rien. Nota bene, il faut l'éliminer,
éliminer.
En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. A-t-on jamais prêté de l'importance autrement que pour s'en débarrasser? Au grain de sable brisant la cadence, empêchant la machine d'avancer. De même au nom du fric, a-t-on jamais hésité une fois à dégraisser? L'effectif pourtant insuffisant, mais Monsieur Gilou n'est pas là pour bosser. Article 1, le chef ne sert à rien,
vraiment rien.
Nota bene, il faut l'éliminer,
éliminer.
En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. Ne supporte pas la concurrence et se targue d'être dans son domaine. Une épée, un phare, une référence, de l'extrait pur de ressources humaines. Sans moi, dit-il, tout deviendrait bancal, l'édifice risquerait de chuter. À l'ordre branlant, je fournis la cale et l'indispensable inutilité. Article 1, le chef ne sert à rien. Nota bene, il faut l'éliminer,
éliminer.
En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. Gens de labeur, salariés, tâcherons, à qui l'on a martelé le principe, qui dit, pour que le monde tourne rond, il faut suer à s'en sortir les tripes. Avec ses tristes habitudes, Monsieur Gilou nous montre le chemin. Noyons l'exemple par la multitude, et tous unis ne servons plus à rien. Article 1, nous ne servons à rien. Nota bene, allons-nous promener au fond des bois pendant notre excursion.
Arrangeons-nous
tradition.
J'entends déjà crier à l'utopie, des hordes hurlantes aboyer au chaos. On me prédit la geôle, même pire, on me promet de me laisser K.O. Qu'importe, d'autres viendront après moi. Aussi, je vous invite en attendant, ensemble reprenons à pleine voix. Monsieur Gilou n'en a plus pour longtemps. Article 1, le chef ne sert à rien. Nota bene, il faut l'éliminer. Et quand le patron se sera fait l'affaire, on ira s'occuper des actionnaires. Monsieur Gilou est chef du personnel, ou d'autres choses on ne sait pas très bien. Il est doué d'un talent exceptionnel, paraître utile, lui qui ne sert à rien. À rien, à rien.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Nous avons donc Thierry Gadeau au micro et qui va nous parler, nous reparler pour la énième fois de l'EPR, enfin des EPR qui ont été construits un peu partout dans le monde, notamment. Celui qui est en Normandie, à Flamanville. Et après ça, on parlera des petites entreprises, enfin de la concurrence des entreprises qui fondent.
Bien, allez, à tout à l'heure.
Bonsoir, bonsoir Bernard, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Oui, alors, quoi de neuf sur l'EPR de Flamanville ? Bah, rien. À savoir qu'évidemment, dans sa transparence bien connue, EDF cache les informations comme d'habitude. Alors, la dernière en date qui doit remonter à 15 jours, 3 semaines, c'est que, enfin, le nouveau couvercle, de la cuve de l'EPR est arrivé à Flamanville. Alors, de quoi on parle ? Faut remonter à l'époque de la construction, donc maintenant il y a 11 ans, on est en 2015. L'année précédente, EDF a installé la cuve du réacteur sans qu'elle ait subi les tests et sans attendre les résultats des tests de résistance de l'acier, qui sont obligatoires, qui sont liés à la réglementation. Et une fois qu'ils sont installés, que le circuit primaire a été boulonné à la cuve, à Areva, qui à l'époque, ce qui est devenu d'une part Orano et Framatome, mais Areva annonce les résultats des tests et il apparaît que le couvercle de la cuve et le fond de cuve, ce qu'on appelle les calottes, ont un problème, il y a trop de carbone. Et donc c'est ce qu'on appelle une ségrégation positive en carbone, et ça fragilise la capacité de résistance de l'acier. Alors, c'est quoi le problème ? C'est que, normalement, ce problème aurait dû être identifié avant que la cuve soit construite, c'est-à-dire au moment où on produit les calottes, normalement, le mode de fabrication permet de savoir s'il y a un risque ou pas. D'ailleurs, c'est ce que disait la SN en 2005-2006, au moment où les calottes ont été fabriquées. Elle a dit à Areva, ne le faites pas, parce que le mode de production que vous utilisez, il va y avoir un problème de ségrégation en carbone. Areva a fait un bras d'honneur à l'autorité de régulation du nucléaire en lui disant « Mais nous, on est des vrais industriels, on sait ce qu'on fait. » Et puis, voilà, et donc ils n'ont pas fait les tests de résistance. L'autorité de sûreté nucléaire demandait ces tests, voilà, et ils sont arrivés uniquement en 2015, une fois que la cuve était installée, boulonnée, et qu'on pouvait en fait plus l'enlever de son puits, du puits dans lequel elle est installée, dans le bâtiment réacteur. Et évidemment, avec un couvercle et un fond de cuve fragile, faut voir les conséquences. C'est-à-dire, est-ce que ces deux parties de la cuve qui sont extrêmement importante, puisque sans fond, il n'y a plus rien, et sans couvercle, là aussi, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut savoir est-ce qu'ils peuvent, malgré cette ségrégation positive en carbone, est-ce qu'ils peuvent fonctionner la durée de vie de la cuve qui est prévue à la conception de 60 ans. Bon, il apparaît très vite que non. Ce n'est pas possible. Voilà. Et ça met suffisamment de doutes pour que l'autorité de sûreté nucléaire fait plancher tous les avis, tous les experts qu'ils peuvent trouver, y compris son groupe d'experts, qui rendent tous les conclusions un peu similaires, à savoir que c'est pas bon. Mais en même temps, on peut plus revenir en arrière. Donc le choix, c'est quoi? C'est soit dire cette cuve n'a pas le droit de fonctionner, et dans ce cas-là, c'est quasiment détruire le bâtiment réacteur pour le reconstruire. Alors peut-être que ça aurait... Enfin, arrêter à ce moment-là le chantier où on devait déjà être à 12 ou 13, on est en 2015, non, peut-être un peu plus, où est 12 ou 13 milliards d'euros de dépenses selon les calculs de la Cour des comptes. Tout compte fait, on aurait peut-être économisé une dizaine de milliards supplémentaires. Donc peut-être que ça aurait été la bonne... Mais en fait, le EDF est en attente d'un feu vert de Londres à la même époque pour construire deux EPR et une clé pointe. Et donc, et l'une des conditions, c'est que l'EPR de Flamanville démarre. Donc on peut pas arrêter le chantier. Donc l'ASN va mentir, va tricher... Et donc va autoriser la mise en exploitation, va autoriser la cuve sans faire de travaux supplémentaires, en disant que bon, pour ce qui est le fond de la cuve, on peut le radiographier régulièrement, c'est-à-dire pendant les grandes visites décennales tous les 10 ans, pour s'assurer que y a pas de problème. Et pour le couvercle de la cuve, il y a un problème, c'est qu'on peut pas le faire le même type d'examen, parce que le couvercle de la cuve est percé par une multitude de trous pour descendre des capteurs, des sondes qui permettent de contrôler la réaction nucléaire. Et donc, le problème est trop important. Comme on peut pas contrôler l'état du couvercle de la cuve, l'ASN dit à Areva et à EDF, « Ok, vous avez 4 ans pour changer le couvercle de la cuve. » Et donne une date limite qui était, si je me souviens bien, donc en 2022. Donc on est à l'issue de toute cette phase, on est en 2018, et à ce moment-là, donc il donne ses 4 années, et dans le même temps, il publie un avis définitif dans lequel ils expliquent que les mesures prises permettent de prévenir le risque de rupture de la cuve. Or, la réglementation, c'est pas que des mesures soient prises pour prévenir. Prévenir, c'est mettre des panneaux en disant attention, danger. Ça, c'est dire faut pas boire, faut pas fumer du hash, faut pas sniffer de la poudre. Ça, c'est de la prévention. C'est ce que fait l'ASN. La réglementation française nucléaire est très claire. La cuve doit être en exclusion de rupture. C'est-à-dire que on étudie tous les scénarios les plus aberrants de catastrophe, et on démontre qu'à aucun moment la cuve peut rompre. Donc, d'un seul coup, on se retrouve avec une cuve qui n'est plus en exclusion de rupture, d'après l'ASN, mais qui a des mesures préventives. Bon, bah, on voit bien, par exemple, la sécurité routière, c'est le gouvernement met en place des mesures préventives pour essayer de prévenir les accidents et la mortalité routière. Bon, on voit que ça marche pas. Bon, ça marche un peu, mais ça marche pas. Il y a combien? 3-4 000 morts par an sur les routes en France.
Ils mettent des radars.
Oui, on voit bien que c'est limité, quoi.
Ah oui.
Mais bon, un mort, c'est un mort de trop, de toute façon. Mais une cuve dont l'acier se déchire, c'est tout un pays qui est condamné. Donc, entre les deux, peut-être que la prévention n'est pas suffisante pour une cuve de réacteur. Donc, voilà. Donc, mais voilà. Donc, personne n'en a rien à foutre. Le gouvernement n'en a rien à foutre parce que ce qui importe, c'est construire ce sacré réacteur EPR, c'est que EDF puisse en construire deux d'abord à Hinkley-Point et puis ensuite deux autres à Suisel. C'est de continuer d'en faire la promotion sur le marché international, donc en dehors des deux de Taishan et des deux du réacteur de Olkiluoto. On sait de toute façon qu'il n'y en aura pas d'autres qui seront construits à l'étranger. Mais c'est pas grave, on continue d'entretenir ce mythe que la France construit des réacteurs nucléaires et particulièrement des EPR partout dans le monde. Mais non, c'est faux. Et puis, mais il y a quand même, voilà, EDF Framatome, qui est la partie industrielle d'Areva et qui a splitté et qui a été rachetée par EDF après la faillite d'Areva, on savent qu'en 2022, ils doivent remplacer le couvercle de la cuve. Que le réacteur ait commencé, qu'il soit en exploitation ou pas en exploitation, personne n'en a rien à foutre. C'est pas la question. Et en 2018, le réacteur, il doit démarrer l'année suivante, hein. Voilà. C'est 2022. Vous avez 4 ans pour fabriquer ce nouveau couvercle. En 2021, Framatome tape à la porte de l'ASN et dit « Écoutez les gars, tout compte fait, le réacteur est toujours à l'arrêt. Est-ce qu'on pourrait pas reporter à plus tard le changement du couvercle ?» Alors, pourquoi ils le demandent? Parce que très certainement, ils n'ont pas fait fabriquer le nouveau.
Voilà. Il y a toutes les chances.
Voilà. Ou ils ont à peine commencé les travaux. Parce que c'est quoi? C'est un gros lingot qu'il faut forger, mettre en forme, le travailler, l'usiner, le recouvrir. Voilà.
A-t-on encore des forges en France?
Oui. On a tout ça au Creusot, évidemment. C'est la forge du Creusot qui doit s'en occuper. Mais à l'époque, elle est sous surveillance, et etc. Ils ont peut-être pas... Ils se doutent que l'outil est pas génial. Donc, voilà. Mais oui, ils auraient pu le commander à l'étranger, mais notamment au Japon. Mais au Japon aussi, ils trichent sur la qualité des fabrications. Donc, c'est compliqué. Donc, ils se retrouvent à devoir demander... Monsieur l'ASN, tout compte fait, comme on n'a pas démarré, c'est pas bien grave si on l'a pas l'année prochaine. On peut reporter ça à un moment où on l'aura. Et l'ASN... dit, oh bah ouais, il n'y a pas de problème.
Bah voyons.
Donc au même moment, on reporte au moment opportun. Voilà, et donc donne un nouveau délai qui s'arrêtait en 2024.
Donc c'est mort.
Et donc, mais disant aussi que, évidemment, que dans la mesure, parce que l'EPR devait démarrer en 2022, dans la mesure où l'EPR aura démarré, donc la nouvelle pièce sera irradiée. Qui dit irradiée, l'ancien couvercle sera irradié. Donc si c'est irradié, ça devient déchet nucléaire quand on l'enlève. Donc comme il n'y a pas d'infrastructure aujourd'hui particulière pour traiter ce type de déchet nucléaire hautement, bien irradié, à Flamanville, EDF demande à EDF de construire un bâtiment spécifique qui pourra accueillir ce couvercle irradié avant de savoir quoi en faire, parce qu'il n'est pas prévu qu'ils aillent encombrer les tunnels de CIGEO, donc le projet de l'ANDRA d'enfouissement en couche géologique profonde pour le combustible nucléaire usagé et pour les déchets à plus haute activité à vie longue produite par le parc nucléaire français. Et donc, on se retrouve... Alors, coup de chance pour EDF, en fait, en 2022, le réacteur ne démarre pas. En 2023, le réacteur ne démarre pas. Et il commence à démarrer en 2024. Et là, tout le monde, il y a une CLI. Alors moi, comme j'y étais, c'était au mois d'avril 2024, ou au mois de mars, je me souviens plus. Il y a une commission locale d'information qui se réunit à la demande, parce qu'ils disent, attendez les gars, vous voulez mettre en route un réacteur qui n'est pas fini de construire. Et puis, il y a ce
problème de cuve à la base.
Ce problème de couvert qu'il faut changer. Normalement, vous le devez le changer cette année. Donc, reporter le démarrage du réacteur.
Bah oui, ce qui paraît.
Au moment où vous aurez le nouveau couvercle. Parce que comme ça évitera que l'ancien soit traité comme un déchet nucléaire. On pourra refondre le couvercle et puis, voilà, que l'acier serve à quelque chose. Et EDF, Framatome, filiale d'EDF, et l'ASN font un bras d'honneur en disant « Non, non, c'est pas grave. » Et donc, ils mettent en route le réacteur et en même temps, ils disent « Oui, non, mais le nouveau couvercle, on l'aura d'ici la fin de l'année. » Ah oui. Bon, on est donc en juin 2026. Et il y a quelques semaines seulement, le nouveau couvercle a été livré à Flamanville. Donc on voit que quand on prend, en gros, voilà, ça veut dire qu'en fait la fabrication, la construction de ce nouveau couvercle, en gros, a débuté en 2022. Voilà. Donc pendant 4 ans, de 2018 à 2022, EDF et Framatome n'ont rien foutu. Ils souhaitent de la gueule des gens. Alors après, donc maintenant, ils doivent installer le nouveau couvercle, lors de cette période d'arrêt de tranche, enfin, c'est pas un arrêt de tranche, puisque c'est l'arrêt initial qui doit durer 10 mois à un an, mais que EDF voudrait raccourcir. On va voir ce que va dire l'ASN, parce que normalement, cet arrêt, c'est commun à toutes les centrales, tous les réacteurs nucléaires qui démarrent. On fait les opérations de démarrage, on fait l'accrochage au réseau, on voit que tout fonctionne bien, on replie le réacteur, et on va faire une visite approfondie pour décrire l'état initial de la centrale nucléaire, du réacteur nucléaire. Voilà. C'est ce qu'on pourrait appeler la visite décennale zéro. C'est le point zéro à partir de laquelle seront jugés tous les 10 ans l'évolution de l'état du réacteur et de ses principaux équipements,
et des
du circuit primaire, etc., etc., etc. Et donc, cette visite est décisive. Donc, EDF doit faire le changement de couvercle durant cette période. Mais c'est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que dans la précédente génération, toutes les sondes qui instrumentaient le cœur du réacteur passaient par, en fait, le fond de la cuve. Et là, on a pris, on s'est inspiré du modèle allemand de cuve nucléaire d'un réacteur qui s'appelle Convoy, pour faire passer l'instrumentation par le couvercle. Donc, et en fait, il y a des billes qui circulent dans certains de ces... Il y a des tubes qui descendent au cœur des assemblages nucléaires d'uranium, et il y a des billes qui doivent pouvoir circuler. Et donc, en fait, la courbure de ces circuits de cette tuyauterie est très, très, est calculée au micron près pour pouvoir justement que les billes puissent circuler et indiquer quel est l'état, le niveau et donner les indications sur la réaction nucléaire, sur la, sur comment se diffuse le flux neutronique, si il y a des problèmes ou pas. Et donc, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Au point d'ailleurs que quand EDF Il y a maintenant un peu moins de 10 ans. Donc ça remonte à 2017-2018, si je me souviens bien, à câbler pour la première fois la cuve, le couvercle de cuve. Bah, tout ça ne fonctionnait pas. Rien ne fonctionnait. Et donc, ils ont mis beaucoup de temps. Il a fallu que moi, je sorte une grande enquête dans l'IB pour qu'ils avouent qu'effectivement, ils avaient des petits problèmes de câblage. Alors, ils ont pas, évidemment, ils n'ont pas dit toute la vérité, une fois encore, mais pour qu'ils reconnaissent un certain nombre de problèmes. L'IRSN, très emmerdé, que j'ai connaissance, et puis des témoignages d'ingénieurs qui avaient travaillé sur ce problème, qui confirmaient les difficultés à mettre en œuvre, donc ils ne pouvaient pas démentir. Et donc, voilà. Donc, mais ça se fait avec des gens qui vont être, évidemment, puisque la cuve a déjà fonctionné, puisqu'on a fait fonctionner depuis donc le démarrage du réacteur, c'était avril-mai 2024. On l'a fait plus ou moins bien fonctionner à pleine puissance, 30 secondes juste pour vérifier qu'on pouvait arriver à pleine puissance, c'est-à-dire 100% du nominal. Et ensuite, on est redescendu parce que ça vibre de trop de partout.
C'est vrai partout.
C'est pire qu'une locomotive à vapeur. Et donc, tout est irradié déjà. Et donc, on va envoyer des équipes pour manutentionner l'ancien couvercle irradié, pour poser le nouveau couvercle, pour faire passer les tubes qui permettent aux billes qui vont instrumenter le cœur nucléaire, tout ça, dans un environnement irradié. Et c'est là où on voit que EDF, qui est toujours là, parler de l'humain, de trucs, du respect des valeurs, etc., mais se fout de notre gueule, mais en permanence. À quel moment ne peut-on pas imaginer qu'un réacteur qui n'est pas fini de construire, ben ça peut attendre encore un an pour avoir le nouveau couvercle et éviter à des salariés de se prendre des doses, sachant que l'accumulation des doses chez l'être humain amène, pas forcément, mais augmente significativement le risque de cancer. Sachant qu'il y avait d'autres gros travaux aussi à faire. Ils doivent changer le système de refroidissement du réacteur parce qu'ils ont découvert au cours des tests qu'il n'était pas assez performant. Là aussi, ils ont préféré reporter les travaux à dans 10 ans quand tout sera complètement radioactif. Mais pourquoi ? Encore une fois, ça sera exposé des salariés, ceux de la sous-traitance, mal payés, mal considérés, souvent mal formés, un risque sanitaire réel, et EDF n'en a strictement rien à faire, l'État n'en a strictement rien à faire, l'ASN n'en a strictement rien à faire. Tous ces gens nous crachent à la gueule en permanence. Alors comprenez bien que la canicule d'aujourd'hui, pour eux, c'est une vaste blague, une vaste fumisterie, parce que pour eux, ça, tout ça, ils en ont rien à foutre. Eux, ils sont dans des bureaux climatisés et on peut mourir à la gueule ouverte, mais ils en ont rien à foutre.
Mais disons que ils sont. Bon, on va passer un morceau de musique parce que ça, ça fait une demi-heure que tu tiens le crachoir.
Faut me couper. Pour poser questions.
Ouais, si je te pose une question, tu vas redémarrer.
Évidemment.
Bon, on va éviter d'appuyer sur le bouton. Écoute, je passe un morceau de musique et on va.
D'accord, d'accord.
On te relance pas.
Non, non. Mais je n'ai pas vu passer l'heure, c'est pour ça. Ouais. Je me suis arrêté plus tôt.
C'est toujours intéressant, de toute façon. Donc.
Puisque la seule valeur qui vaille en cette fin de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire, les avoirs et les pépettes, la fortune, la grosse galette, le flouzé, les picaillons, le capital et le pognon. Dans ma grande naïveté, une question me préoccupe, la nouvelle pauvreté Faut nous dire combien ça coûte, un kilomètre d'autoroute, un grand stade à footballer, Super Phoenix réformé. Combien ça coûte une famille pour qu'elle survive une année, juste en bouffant des lentilles et en payant son loyer. Combien ça coûte la souffrance, combien ça pèse la détresse, combien ça coûte l'indigence dans notre beau pays de France. Oui, dites-moi combien ça coûte un Charles Leclerc, un Exocet, un joujou de chez Dassault, un TGV supersonique, un cocktail ministériel, les grands travaux présidentiels. Combien ça coûte le prestige, combien ça coûte l'indifférence. La 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 la. Puisque la seule valeur qui vaille en cette fin de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89.4, l'émission Sévice Public. Je vous rappelle quand même que Radio Libertaire a toujours besoin d'argent pour l'entretien du matériel qui s'use très vite. Pour cela, vous pouvez vous adresser aux copains, prendre une carte d'auditeur de la radio en allant au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, à la librairie Publico. Et vous pourrez donc obtenir une carte et ça permettra, cet argent permet d'aider à acheter du matériel, parce que il faut en changer régulièrement. On a des lecteurs de CD qui sont bien usés. Il va falloir les changer incessamment sous peu, je pense, à la rentrée. Voilà. Bien, et ben on va continuer avec notre ami Thierry. On parlait des autres, du fameux réacteur qu'ils ont essayé de construire et qu'ils ont arrêté, parce que, comme tu disais, Thierry, il y a des ingénieurs qui sont pas trop cons et qui, quand même.
Alors, on ne parle plus là de l'EPR, mais on bascule sur le projet New World. C'est ça, Bernard?
Ouais.
Alors, le projet New World, c'est ce qu'on appelle un SMR. C'est-à-dire un small modular reactor. Alors, et qui a été, en fait, à la fin des années 2010, EDF, qui est parfaitement conscient que c'est une vaste fumisterie, mais bon, sous la pression, et puis, je veux dire, fallait changer le narratif sur le nucléaire français, puisque tous les jours, il y avait des papiers sur l'échec du chantier de l'EPR de Flamanville. Donc, EDF s'associe au CEA, Technique Atome, qui est la filiale du CEA, qui conçoit et fabrique les chaudières nucléaires pour les sous-marins nucléaires français et le porte-avions, et puis Naval Group, donc les chantiers navals français. Et pour faire un petit réacteur, donc qui va s'appeler New World, sans puissance de 170 mégawatts, construit en paire et soi-disant en usine, et qui doit permettre d'être vendu partout dans le monde, dans des pays qui n'ont pas les infrastructures pour accueillir un EPR. En fait, le projet, le développement de ce réacteur va être donc confié à Technicatome. Alors, faut savoir que Technicatome, c'est elle qui a mis au point les chaudières des porte-avions français et des porte-avions et des sous-marins français, donc qui travaillent dans le domaine depuis 50 ans. Autant dire que faire un petit réacteur, c'est une chaudière nucléaire n'est jamais qu'un petit réacteur. Donc pour eux, ça n'a pas de secret. Ils ont toutes les technologies, toutes les compétences, sont des vrais industriels. D'ailleurs, la preuve, c'est que depuis qu'on a mis à l'eau le premier sous-marin nucléaire français, il n'y a jamais eu de panne, ou en tout cas, on les a jamais appris, et ça fonctionne et ça doit fonctionner parfaitement. Donc, c'est pas comme un réacteur nucléaire d'EDF qui, lui, peut tomber en panne à n'importe quel moment parce que il est mal entretenu ou pas. Je veux dire, quand on motorise un sous-marin nucléaire ou le porte-avions, d'ailleurs, on n'a pas le droit à l'échec, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à faire semblant.
Cela dit, je te reprends parce que le porte-avions Charles de Gaulle,
oui,
il n'a eu que des emmerdes, ce truc-là. À peine mis à la mer, il y a la peinture de la coque qui se barrait.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec la chaudière nucléaire qui l'équipe.
Et si, parce que tu as, enfin, pas pour la peinture, mais il y a le, comment dire, l'équipage des mécaniciens ont refusé de monter à bord parce que le réacteur nucléaire, le confinement, ils pouvaient pas monter à bord parce qu'il y avait trop de radiation.
Alors, mais c'est un autre problème que celui du fonctionnement de la chaudière nucléaire.
C'est un autre problème.
Voilà. La chaudière, enfin, il y a deux chaudières nucléaires dans le porte-avions, fonctionnent. Les chaudières des sous-marins, que ce soit sous-marins d'attaque ou lanceurs d'engins, fonctionnent et à ce jour, il n'y a jamais eu aucun problème. Et les sous-marins, alors peut-être que en plongée, ils ont connu des problèmes, mais c'est jamais sorti dans la presse, en tout cas à ce jour, ils rencontrent pas des problèmes comme des arrêts d'urgence, quoi. Ce qui existe sur les réacteurs nucléaires d'EDF. Où ça, voilà. Alors, je dis pas que c'est courant, mais c'est, voilà, les problèmes de maintenance, d'arrêt, d'urgence, etc., tout ça, voilà. Donc, Technicatome sait faire un petit réacteur nucléaire. C'est pas différent d'une chaudière pour le porte-avions ou pour les sous-marins. Et donc, à l'époque, en 2020, ils disent qu'il leur faut 10 ans d'études. 10 ans d'études. Et, 1 milliard pour mettre au point, alors que ils sont les spécialistes mondiaux, hein. Mais voilà, donc ça donne aussi, ça montre bien que déjà, même quand t'es spécialiste du sujet, tu prends quand même 10 ans, tu dépenses 1 milliard, et donc tous les autres projets de DCMR qui disent que avec 3 trombones et 2 bouts de chewing-gum, ils vont y arriver en 2 ans, tout ça c'est bidon, quoi, déjà. Donc ça, voilà. Et puis évidemment, eux se reposent pour faire leur ce New World sur les technologies qu'ils développent, qu'ils maîtrisent pour les chaudières de la marine. Et EDF, quand ils ont vu les dessins, ils se sont dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est pas un réacteur nucléaire. Mais c'est pas comme nos réacteurs nucléaires. Non, mais les nôtres, ils fonctionnent. Ouais, mais c'est nous, on comprend pas là ce que vous faites. Et c'est trop compliqué là. Oh là 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 là. Oh, mais ça va demander trop de temps. Bon, on arrête tout. Voilà. En fait, EDF a pris le premier prétexte pour arrêter le développement du New World parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de marché. Parce que, en fait, dans la réalité, le coût de construction et le coût d'exploitation au mégawatt est au moins aussi élevé que celui d'un EPR. Voilà. Et par ailleurs, ça produit plus de déchets nucléaires qu'un EPR.
Formidable.
Là, même les gens d'EDF disent, ouais, on va pas le faire. Il y a des conneries qu'ils arrivent à éviter, tu vois.
Bah oui, pourtant, il faut bien remplir les mines, pas les mines, mais les galeries pour déchets nucléaires. Il va falloir les remplir.
Ah ben, on a tout ce qu'il faut pour les remplir. Ça déborde déjà à la Hague, puisque pour le moment, les cœurs usagés, enfin, ce qui reste des cœurs usagés, des combustibles usagés irradiés, du parc nucléaire sont stockés à La Hague, ça déborde, il n'y a plus de place, donc ils doivent construire une nouvelle piscine en catastrophe, bourrer tout ce qu'ils peuvent dans les piscines, en espérant qu'il n'y aura pas d'accident, sachant que rien n'est sécurisé, hein, puisque ce sont des bâtiments tôles.
Oui, c'est ça qui est fou.
Et Greenpeace a régulièrement montré, qu'un attentat contre ces bâtiments serait catastrophique, évidemment, par les conséquences que ça pourrait.
Un drone, par exemple.
ils ont fait des démonstrations de drones qui se posent sur le.
Oui, ou même semble, d'humains qui rentrent.
Voilà, on sait bien, quand on connaît les centrales nucléaires françaises, on sait bien quels sont les points de fragilité. Alors, moi, je ne vais pas le dire, mais on sait parfaitement que. Il y a aujourd'hui des porte-missiles qu'un être humain peut apporter à l'épaule ou installer sur un trépied et que sont des armes suffisamment perforantes et qui pourraient à la fois provoquer des accidents graves, que ça soit sur une centrale nucléaire ou plusieurs, ou que ça soit sur les piscines d'entreposage du combustible usagé de La Hague. Donc là-dedans, l'État ne prend toujours pas aucune mesure. Alors, il y a quand même des mesures de sécurité qui sont assez facilement mises en œuvre. Mais bon, voilà, donc tout ça, on n'en a rien à faire. Et on fait semblant que tout va bien. Donc, on a le projet CIGEO ne se comprend que si l'on sait que, en fait, depuis la création du parc, enfin, et même avant la création du parc nucléaire, dès le début des années 50, on savait qu'un jour, il faudrait créer une structure enterrée pour stocker les saloperies que l'on fabrique à La Hague et avant ça à Marcoule et en région parisienne. C'est d'ailleurs, en fait, pour expliquer plus clairement, EDF et Framatome disent faire du LCEA, disent faire du retraitement. C'est pas du retraitement, c'est de production du plutonium. Le plutonium étant un résultat de l'irradiation de l'uranium. Mais c'est pas le seul sous-produit de l'irradiation de l'uranium. Il y a plein d'autres saloperies qui sont encore plus dangereuses que le plutonium, ou au moins aussi dangereuses que le plutonium, mais évidemment qui sont inutiles. Et donc, on est obligé de les stocker. C'est ça qu'on stocke à La Hague. Et on les stocke. Ouais. Ce qui a été mis au point dans les années 50 par le CEA, c'est comment on peut les stocker en garantissant une certaine sécurité. C'est dans des colis vitrifiés qui empêchent quasiment de revenir en arrière, c'est-à-dire de les réutiliser derrière. De toute façon, on ne peut pas les réutiliser. Mais ces colis, il faut bien un jour, parce que les mettre dans un bâtiment là, à La Hague, sans aucune sécurité, ok, très bien, mais ça a une fin de vie un jour. Donc un jour, il va bien falloir les planquer quelque part. D'où CIGEO. Donc c'est pour ça que les batailles aussi contre l'aval du futur, contre La Hague, l'aval du futur étant la nouvelle usine de La Hague qui doit accompagner le développement des EPR2 en France. Et CIGEO, c'est une bataille qui doit être menée en commun, parce qu'en fait, c'est à cause de La Hague qu'on a CIGEO. Voilà.
Mais quand tu disais de la vitrification des déchets nucléaires, c'est il y a pratiquement que ça qui stabilise
parce qu'on a produit du plutonium et que pour produire du plutonium, au lieu de la barre d'uranium, au lieu de la laisser dans son intégrité, et ça on peut la stocker dans des colis à sec avec refroidissement naturel, que fait d'ailleurs par ailleurs Orano et qu'ils vont aux électriciens américains, on sépare. On traite l'uranium pour séparer le plutonium, les autres actinides. Et évidemment, au bout d'un moment, on garde l'uranium. L'uranium de retraitement, il va dans une poubelle parce qu'on ne le réutilise pas. Et le plutonium, lui, part dans la filière MOX. Et puis, un jour, c'est le grand rêve du CEA depuis les années 40, depuis la création du CEA, c'est que toutes nos centrales nucléaires soient remplacées par des réacteurs à neutrons rapides qui, eux, peuvent fonctionner au plutonium. C'est pour ça qu'on a créé cette filière de production de plutonium à Marcoule et à La Hague. Et puis les autres actinides qui sont aussi dangereux que le plutonium, ben faut les vitrifier pour limiter le risque, pas le faire disparaître, limiter le risque. Et aujourd'hui, voilà, faut que ce risque maintenant disparaisse quelque part. Et donc on a choisi Bure, enfin l'Andra a choisi Bure, l'État a choisi Bure, qui était supposé être désert, donc sans problème. Hein. Il y avait ça n'allait emmerder personne, Bure. Bon, si. Même en Meuse, il y a du monde. Même en Meuse, il y a des gens qui s'opposent à ce qu'on vienne salarper leur terre. C'est quand même terrible, quoi. Ces Français, ils n'acceptent jamais rien, c'est insupportable.
Toujours à râler.
Toujours à râler. Mais voilà, donc, il y a suffisamment. Et quand on parle d'un nouveau parc d'exploitation nucléaire, donc de ces 6 plus 8 EPR2, que Emmanuel Macron veut construire. Enfin bon, il fait semblant de vouloir les construire. C'est une autre histoire. Mais les déchets radioactifs de ce parc-là n'iront pas à CIGEO, parce que CIGEO n'est pas prévu pour ça. Ouais. On a pu, en augmentant un peu les capacités, mettre le PR de Flamanville. Mais c'est tout. On ne peut pas. Et normalement, le parc doit s'arrêter à 50 ans. Alors là, maintenant, ils veulent le porter à 60, sachant que, en fait, ils font tout pour vouloir le porter à 80. Mais ça rentre plus dans CIGEO, tout ça. Voilà, ça déborde de partout. Donc, bon, c'est de grand n'importe quoi, quoi. Donc, comme toujours.
Et ils vont balancer ça dans les...
En Afrique.
En Afrique ou dans les failles.
Alors.
Les fosses marines.
Alors, le balancer en mer, c'est interdit depuis le milieu des années 70 avec la Convention de Londres qui est devenue un traité international et qui interdit de balancer des déchets solides en mer. Pas les déchets liquides, puisque on balance en mer. Et pas qu'en mer, y compris dans les fleuves, dans les rivières en France, des déchets liquides.
Tous les paquebots qui dégazent.
Mais c'est pas radioactif.
Oui, c'est pas radioactif.
Oui, bien sûr, mais le tritium que déversent les quatre centrales de la Loire, enfin les trois centrales, les quatre centrales de la Loire, plus la centrale de Civaux, se retrouvent dans la consommation humaine. Une partie des villes en aval puisent leur eau dans la Loire et on ne sait pas séparer la molécule d'eau de la molécule de tritium, c'est la même. Donc on la boit. Nos concitoyens la boivent, avec des effets à long terme évidemment sur l'organisme. À La Hague, évidemment, cette production de plutonium et de séparation de l'uranium, du plutonium et des autres actinides, c'est extrêmement radiotoxique, extrêmement polluante, extrêmement dangereuse, et les effluents liquides sont balancés en mer. On en retrouve, Greenpeace a fait des campagnes, et on a retrouvé les traces jusque sur les côtes du Canada. Mais il n'y a pas de danger, ils vont dire, les pro-nucléaires. Oui, mais je veux dire, à l'état naturel, ça n'existe pas, ces traces. Donc, on n'a pas à saloper la mer et tous les milieux marins avec nos saloperies.
Les Japonais, ils balancent l'eau contaminée en mer aussi.
Alors, ils veulent le faire pour, effectivement, l'eau contaminée de Fukushima. Bon, c'est un dixième. Je crois que ce qu'ils ont stocké, ça représente, peut-être pas une année de production à La Hague, mais c'est de cet ordre-là, quand même. Donc, avant qu'ils nous rattrapent, ils ont le droit à quelques autres Fukushima. Non, je blague. Je n'en souhaite pas, évidemment.
Ils seront inondés.
Le réchauffement climatique, la montée des eaux, toutes les centrales seront sous l'eau, et comme ça, il n'y aura plus d'accidents. Bon, tout sera pollué.
C'est la solution, oui. Puis après ça, en plus, ils pourront manger des sushis sans problème.
Voilà, ouais, au plutonium.
Au plutonium.
Mais on sait que, par exemple, le thon, et c'est vrai que c'est décommandé, c'est notamment aux femmes enceintes ou aux personnes qui ont des problèmes de santé, c'est de pas de manger du poisson cru. Parce que, effectivement, il y a de... Moi, c'est ce que je raconte, c'est... En interne chez EDF, il y a un laboratoire d'analyse médicale, donc c'est pour les salariés du nucléaire, qu'ils soient EDF ou de la sous-traitante, et quand il y a des problèmes de suspicion de contamination interne, ils passent des tests, etc. Et tout ça est fait par... Et un jour, ils ont un truc... La détection du plutonium explose dans la... Et donc, non, mais c'est pas possible. À des niveaux comme ça, c'est pas possible. Et donc, ils décontaminent tout, etc. Ils refont le test, bah, de nouveau. Donc, ils recommencent. Et puis, ils se disent, bon, mais il y a peut-être l'un d'entre nous qui est contaminé. Et donc, ils se testent. Et il y a, effectivement, parmi le personnel du laboratoire, il y a un agent qui est positif au plutonium, sachant que son repas de base, c'était des sushis au thon.
Ah oui.
D'accord. Voilà. Alors, en Normandie...
Ah, il en mangeait beaucoup tous les jours. Hein. Donc, voilà. Ouais. Donc, il commençait à accumuler dans le corps pour que, sur un test de dépistage, ça puisse apparaître. Donc, c'est quand même... voilà, c'est pour les gens qui... C'est ce que je disais, mes enfants, quand ils étaient plus jeunes... Ados, au lycée, ils avaient un restaurant japonais où ils adoraient aller à une de ces petits trucs ou manger des sushis et qui étaient pas chers. Et je leur disais, ouais, mais les gars, mais bon, doucement quand même parce que c'est pas bon pour la santé le poisson cru.
Cela dit, en Normandie, il y a pas mal d'huîtres. Ça
ne
doit pas être terrible, les huîtres
normandes.
Ce problème est apparu, donc c'était en 2015, et j'en parle dans le chapitre de mon livre, là, le dictionnaire critique du nucléaire, au chapitre L comme leucémie. Parce qu'en 2015, donc, il y a eu tout un débat à partir du début des années 80, avant l'accident de Tchernobyl, mais en Grande-Bretagne, sur le site de Sellafield, c'est ça, qui est l'équivalent de Lac, plus de Marcoule, plus de Chinon, donc pour dire l'ampleur de ce site qui est vraiment un site clé du nucléaire britannique, qui est sur la côte ouest de la Grande-Bretagne, donc en bord de mer d'Irlande, et il y avait des problèmes sanitaires dans la population voisinante, et donc il y a eu des études et qui ont montré qu'il y avait une relation entre les cancers, les leucémies et le site de Sellafield. Évidemment, on se dit, ben, nous, on a un site à peu près équivalent, en tout cas en partie, qui est La Hague. Et donc, il y a un médecin, un épidémiologiste, qui fait une première étude, qui remarque qu'il y a un taux, effectivement, de leucémie infantile autour de La Hague, qui est plus important que dans le reste de la France. Mais bon, à l'époque, son étude ne fait pas trop de bruit. Et 3 ans plus tard, donc la première étude, c'est 2012, et 2013, et en 2015, il refait une autre étude avec un spécialiste de médecine publique, et il se rend compte qu'il y a un lien entre les gens, et donc les enfants, qui ont l'habitude de se promener en bord de mer, et qui mangent aussi des coquillages ou des poissons pêcher en bord, dans les eaux continentales, autour de Flamanville, de Flamanville, de La Hague. Et donc, ils sortent une étude. Alors là, tout le lobby, tout le complexe, il n'y a pas de lobby, tout le complexe, l'État en premier, cette étude, c'est deux médecins n'y connaissent rien, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, au final, donc il y aura une étude qui va sortir pour dire non, il n'y a aucun problème. Bon, 5 ans plus tard, il y a eu une autre étude médicale qui a été faite, qui a établi qu'effectivement, il y avait un risque avéré de développement de leucémie infantile à La Hague. Le débat est clos. l'industrie n'en a plus jamais parlé parce qu'elle préfère cacher les problèmes plutôt que de les affronter. Mais voilà, donc on sait que quand on habite autour de La Hague, faut pas manger les crustacés locaux, faut pas manger le poisson local, faut pas aller sur les plages, c'est un peu emmerdant quand même, sous risque, et surtout quand on a des enfants en bas âge, sous risque. Et on sait aussi que dans un rayon de 5 km autour des centrales nucléaires, ça c'est une étude qui est partie d'Allemagne, il y a aussi des risques de leucémie infantile plus élevés que dans la moyenne de la population. Donc voilà, donc on sait bien, et c'est normal parce que tous les gens vous le disent, il y a des points chauds autour des centrales nucléaires, dans le périmètre de la centrale nucléaire, dans les routes qui sont prises par les convois qui vont, qui transportent le combustible usagé, parce qu'ils ne sont pas toujours étanches. Et voilà, donc c'est un vrai problème sanitaire.
Parce que ça touche effectivement les femmes enceintes, etc. C'est-à-dire que effectivement, du coup, dès la naissance, les bébés sont atteints de...
Sont exposés à ce risque. Voilà. Et on sait, les études médicales aujourd'hui savent que c'est pas n'importe... Même la dose la plus faible d'irradiation va entraîner des cassures de brins d'ADN. Et que c'est la façon dont ces brins d'ADN se reconstruisent ou pas qu'on peut dériver vers un risque de cancer. Et donc voilà, c'est ça a été ce processus là, cette connaissance là du risque des très faibles doses sur le risque de cancer, la médecine nucléaire l'a établi il y a maintenant 20 ans. Mais pendant 20 ans, l'industrie nucléaire a nié.
Mais comme les risques. L'industrie du tabac avait nié que la nicotine était dangereuse,
tout à fait,
etc. Enfin, c'est toujours la même histoire. Ça se, voilà.
Que ça soit le pétrole, le tabac, le nucléaire, ils utilisent les mêmes recettes pour fabriquer le doute scientifique en remettant en cause les... quand ils peuvent pas remettre en cause les études, ils mettent en cause les scientifiques en disant ouais mais eux c'est pas des vrais scientifiques. Quand ils mettent en cause, ils remettent en cause les résultats, ils essayent de tricher pour montrer que les résultats ne veulent pas dire ce qu'ils disent, et pourtant
en mettant des faux experts,
voilà, ils vont payer, voilà, voilà, exactement, ils vont fabriquer du doute scientifique pour dire, mais non, en fait, on peut rien prouver. Et donc ça, et l'industrie nucléaire l'a fait pendant très longtemps, et jusqu'en 2023, quand est sortie la grande étude épidémiologique internationale, donc sur les risques sanitaires liés à l'exposition aux rayons ionisants des salariés du nucléaire. Donc c'était États-Unis, Grande-Bretagne et France, et où il est établi que, quelle que soit la dose reçue, la dose accroît le risque de cancer. L'accumulation de doses, y compris de faibles doses, accroît aussi significativement le risque de cancer. Voilà. Donc oui, maintenant, ils peuvent plus nier le risque.
Ouais, ouais. Et puis comme ça vient attaquer aussi l'ADN, c'est-à-dire que c'est ça le problème aussi. Comme ça vient attaquer l'ADN, donc n'importe quel homme ou femme qui est en âge de procréer, forcément va donner des gènes, enfin après c'est la loi de la nature, oui ou non.
Alors on n'en est pas encore à Tchernobyl, mais on a bien vu à Tchernobyl, voilà, comment l'exposition aux radiations avait modifié dans un certain nombre de cas, dans de nombreux cas, l'ADN humain, et derrière avec les problèmes d'enfants mal formés, voilà, qui sont apparus après dans la population qui avait été soumise aux radiations, oui, bien sûr.
Et puis il y a eu des études de fait, hein, où il y a de plus en plus de morts, comme ça s'appelle, de l'enfant, qui augmente, hein, alors que en principe on devrait diminuer le taux de mortalité infantile, et en fait on s'aperçoit que finalement ça augmente. Et ça augmente la mortalité et l'handicap aussi.
Oui, alors là pour le coup, tu fais référence, mais à des notamment autour de La Rochelle ou dans d'autres régions dans l'ouest de la France, mais pas seulement, il me semble aussi il y a des problèmes dans le centre dans l'est, et qui sont plus liés à des pollutions d'origine industrielle qu'à du nucléaire pour le coup, sans vouloir paraître défendre le nucléaire, mais qui sont liés plus à des pollutions industrielles ou agricoles. Les deux étant, étant souvent, puisqu'on est dans un milieu semi-rural, enfin ruraux, ou en périphérique de ville, où il y a un mélange à la fois d'industrie et d'agriculture, où ces deux risques-là peuvent être cumulés.
On va passer un petit peu. Oui, on va passer un peu de musique.
Puisque c'est le titre du spectacle, on va vous faire tout de suite merde en français. Le titre exact, c'est « On ne peut dire merde qu'en français ». C'est quasiment un sujet de rédaction. D'ailleurs, ce qu'on vous a pas dit, c'est que vous allez faire une copie. Vous nous la rendrez à la fin. D'accord ? Merci. À Moscou, on dit « Tovarich », parfois « Vladimir Ilitch ». Et quand on est dans le début, je suis pas sûr qu'on dise Eltsine, mais il est une chose que je sais, c'est qu'on dit merde qu'en français. Aux USA, on dit Dallas, juste après, on dit hélas, en repliant le fusil à lunettes, pour pas chasser sur la planète, ça fera peut-être pas un succès, moi je leur dis merde en français. On dit amen au Vatican, Dieu te le rendra, il sait pas quand. Il dit que plus tard tu seras heureux, c'est dommage qu'ils disent en hébreu. Je comprends le mot pas assez, on dit bien merde qu'en français. À Madrid on dit franco de pain, mais il faut pas le dire trop fort. On dit que les grenades sont bénies, pour un marché en plus délit. Passer l'on finit pas de passer, il faut lui dire merde en français. On dit Major, on dit Thatcher, pour s'injurier à Manchester. On est du Leaf et du Random, on dit Shocking, Eric King, l'anglais c'est vraiment compassé. On veut dire merde qu'en français. On dit la messe en polonais, et pour moi c'est du javanais. Il passait la dire en bantou, je comprendrai toujours rien du tout. J'aime pas ce qu'on dit la tête baissée, je préfère dire merde en français. On dit à la face à la mec, autant l'autre face quand le mec est grec. Excusez-moi de dire enculé, le grec je sais pas bien me parler, mais il est une chose que je sais, c'est qu'on dit merde qu'en français. On dit notre maître chez les larbins, et nique ta mère en maghrébin. Dans les Hauts-de-Seine on dit passe quoi, dans les bas on se demande pourquoi. C'est les Corses qui viennent vous taxer, alors qu'on dit merde en français. À Berlin, mais à la place on dit Adolf, on dit Einstein en Germanie. Et l'on se retrouve en barbarie, on ne répétera jamais assez. On dit bien merde qu'en français.
Bien, on vient d'écouter Elisabeth, merde en français. Ça doit rappeler des choses aux anciens auditeurs de la radio. Voilà, on va continuer avec Thierry. Tout d'abord, je vais vous dire ce qu'il va y avoir le mercredi 24 juin à 19h à la librairie Publico. Il y a une rencontre débat avec Amine Messal pour son ouvrage « Erreur sur la marchandise, critique libérale du libéralisme ». Voilà qui est assez évocateur. Et puis samedi 27 à 17h, dans le même lieu, au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, il y aura un concert de Maximilien Chazan, qui est guitariste. Voilà, voilà pour les événements à venir proches. Tout se passera mercredi soir, tout se passera au frais. Parce que la température ne va pas baisser. Non. Et justement, nous allons vous parler maintenant du nucléaire et de la chaleur de l'eau et de la pollution de l'eau via le nucléaire.
Oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui est maintenant identifié et qui a été médiatisé, notamment à partir de 2019, si je me souviens bien, c'est 2018 ou 2019, avec le journal du dimanche, qui à l'époque n'appartenait pas encore aux réactionnaires d'ultra-droite, xénophobes et pro-Poutine, qui commencent par, dont le prénom commence par Vincent et dont le nom se finit par Bolloré. Donc, à cette époque, on avait fait un ensemble sur la gestion de l'eau en France, avec notamment la question du nucléaire. Et donc, on avait été les premiers à en parler, en fait. Et donc, le problème, c'est quoi? C'est que, il doit y avoir une quarantaine de réacteurs nucléaires qui sont installés sur des cours d'eau, donc des rivières ou des fleuves en France. Évidemment, pour son fonctionnement et son refroidissement, ces réacteurs nucléaires ont besoin d'eau en permanence. C'est pas un coup il y a de l'eau, un coup il y a pas d'eau, comme en Guadeloupe, où là pour le coup 65% de la population minimum 2 jours par semaine n'a pas d'eau. Donc là, ça pourrait pas fonctionner. Un réacteur nucléaire peut pas fonctionner en Guadeloupe s'il a pas la certitude d'avoir de l'eau 100% du temps, 365 jours par an, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud, qu'il fasse pas chaud, peu importe, qu'il y ait de la glace, peu importe les conditions, qu'il y ait une météorite, peu importe, il doit y avoir de l'eau en permanence. Évidemment, avec les saisons, déjà en temps normal, sans parler des conséquences du changement climatique, les fleuves et les cours d'eau sont soumis à un étiage l'été normal, logique, puisque l'été, il y a moins d'eau, évidemment, puisque l'essentiel de nos cours d'eau sont alimentés par la neige et par les pluies. Donc, évidemment, quand il n'y a ni neige ni pluie, il y a un peu moins d'eau dans le cours d'eau, quoi. Donc, c'est un peu... Et l'eau a tendance à chauffer, quoi. Le problème, c'est que il y a des limites réglementaires à la température de l'eau que peut prélever un réacteur nucléaire pour son refroidissement. Et puis, surtout, les rejets liquides peuvent pas amener le cours d'eau à dépasser une certaine température. Et aujourd'hui, on est aux limites de ce système du fait du réchauffement climatique. Et en fait, on va même le dépasser. Donc, entre la baisse de débit des grands fleuves, faut quand même le rappeler aujourd'hui, la Garonne est en voie de disparition. Entre 2050 et 2100, la Garonne quasiment cessera de couler un certain nombre de mois de l'année. On le sait à peu près, on en est à peu près sûr. Pour le Rhône, la Loire, la Seine, on parle d'ici à 2050 de baisse de débit de 30 à 50%.
C'est énorme.
L'été. Donc on voit bien qu'on va avoir un problème majeur, problème qui commence déjà à se poser, et depuis maintenant le milieu des années 2010, pour le refroidissement des réacteurs et surtout pour leur autorisation de rejet. Donc ça amène EDF quasiment tous les ans systématiquement en période à partir de la fin du printemps. En fait, ça dépend s'il y a des canicules précoces ou pas, ou en tout cas des périodes de sécheresse précoces ou pas, jusqu'à quasiment le mois de novembre, parce que c'est pas les premières pluies qui permettent de l'automne, qui permettent toujours de rétablir la situation et de retrouver une forme de normalité. Donc pendant 6 mois de l'année, ou même un peu plus, on a cette pression exercée par la nature sur l'exploitation de nos réacteurs nucléaires, de nos 56 réacteurs nucléaires. Je parle pas des 56 réacteurs nucléaires, des réacteurs nucléaires qui sont installés sur des cours d'eau, fleuves ou rivières sur le territoire national. Et donc on arrive l'été. Dès que les périodes de température élevée, sans même parler de canicule, mais qui coïncident avec des périodes de sécheresse, comme on a pu en connaître depuis le mois de mars, parce que depuis le mois de mars, on a un déficit pluviométrique qui est marqué, alors que jusqu'à la fin du mois de février, on débordait d'eau en France, mais ça s'est depuis les pluies importantes et suffisantes pour la nature n'ont pas été suffisantes justement, donc on sait que voilà, il y a eu quelques neiges un peu tardives sur les Alpes, mais là aussi ça a très vite fondu, d'autant plus que les au mois de mai, je crois qu'on a eu une première période de canicule sur le pays, donc voilà, ce qui fait que aujourd'hui déjà on est à fin juin, EDF annonce la baisse de production et donc qui va certainement être suivie par l'arrêt de production d'un certain nombre de réacteurs parce que simplement elle n'a plus les conditions d'exploitation qui permettent d'assurer leur sûreté. Et donc c'est un problème majeur, sachant qu'on est qu'au tout début du changement climatique et donc de ces conditions. On sait que bon, d'ici 2100, puisqu'on n'a rien fait, on va avoir quasiment une hausse de la température moyenne en France qui sera de 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, sachant qu'aujourd'hui, on est autour de 2,5. Mmh. Plus 2,5, la température moyenne en France est environ 2,5. Vous voyez quand même dans quel état on est actuellement. Hein, avec ouais. Voilà. C'est-à-dire que l'été actuel sera un été normal, voire même un peu froid, en 2100. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. Moi, je mets la tête dans le four, quoi, tout de suite. Moi, comme ça, tu sauras ce qui t'attend, quoi. C'est quand même hallucinant, quoi. Ça veut dire que 40 degrés, ça sera la normale. C'est ahurissant. Donc, en dehors de monter en altitude.
On n'est pas très bien passé par rapport. Parce qu'en fait, il y a l'Arctique. Qui est en train de vraiment se réchauffer par rapport à l'Antarctique. Et du coup, nous, en tant qu'Européens, en fait, finalement, on morfle encore plus que ceux du dessous. Mais moi, ce qui m'inquiète quand même aussi, bon, mis à part l'eau, effectivement, on a besoin de cette eau, mais cette eau qui va se réchauffer. C'est ça le truc, c'est que comment on va faire pour refroidir des centrales? Alors déjà, on aura moins d'eau, mais en plus, on aura de l'eau plus chaude, quoi. C'est-à-dire à partir de combien de degrés, il faut que l'eau soit combien de degrés pour pouvoir refroidir un réacteur, en fait.
On va sortir des marges d'exploitation et de sûreté des réacteurs nucléaires, c'est évident, pendant 6 mois de l'année, minimum, c'est-à-dire du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Si on continue l'exploitation de nos centrales nucléaires. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire que sur les prises d'eau, enfin sur EDF va pomper l'eau qui est trop chaude, donc ça va, ils vont être obligés de la refroidir. Ouais.
Besoin d'énergie, donc plus de CO2. Donc...
Ça me rappelle les Shadok. Ils pompaient.
Non, mais c'est exactement et derrière. C'est l'histoire que nous. Comment ça s'appelle que nous, comment on appelle ça là pour refroidir là.
Climatiseurs.
Ah, climatiseurs. Oui. C'est-à-dire que les gens utilisent les climatiseurs à fond. Donc, ça crée plus de CO2. Donc, du coup, la planète va encore plus se réchauffer. Et du coup, enfin, c'est les trucs qui sont là.
Et surtout, ça rejette la chaleur à l'extérieur. Et alors, voilà. Et puis, par ailleurs, on bouffe beaucoup d'électricité. Et l'électricité est produite par quoi? Donc, voilà, c'est aussi les questions qui se posent. Et donc, c'est ça. Donc, le problème d'EDF, c'est que, ils ont un problème, c'est que l'eau en se réchauffant va rendre leur capacité de refroidissement moins efficace. Donc, ça veut dire qu'ils vont devoir, d'une façon ou d'une autre,
baisser la
température de ce qu'ils pompent déjà. Et ensuite, faut qu'ils baissent aussi la température de rejet. En fait, moi, je vais vous livrer, alors je sais pas, peut-être que j'en ai déjà parlé un jour ou pas. Il se trouve que je connais l'un des ingénieurs qui a fait les études sur l'implantation des EPR2, donc la version soi-disant simplifiée de l'EPR, au Bugey et à Tricastin. En fait, pourquoi ils ont choisi au Bugey? Parce que c'était plus simple qu'au Tricastin, parce que Tricastin, ils pouvaient pas refroidir suffisamment.
Ouais.
L'eau de rejet, et que comme c'est un canal qui a déjà beaucoup d'installations dessus, non, ça le faisait pas, quoi. Et au Bugey, c'était très limite. Et donc, ils ont trouvé un nouveau système de refroidissement qui est un peu plus performant que le refroidissement classique que le système de refroidissement classique utilisé sur les réacteurs actuellement, mais qui est déjà lui-même aux limites. Et en fait, Et ça, c'est pour les conditions actuelles.
C'est là aujourd'hui, comme une clim, c'est ça,
c'est oui, c'est des changeurs.
En gros, quoi.
C'est des échangeurs à plaques.
Non, mais du coup, ça rejette.
Donc il y a un circuit, d'eau qui capte la chaleur.
Ouais.
Et évidemment, il faut que l'eau soit suffisamment froide pour pouvoir capter la chaleur. Et cette eau, soit tu vas ensuite la rejeter dans l'air sous forme de vapeur, soit, si tu peux la refroidir une troisième fois, suffisamment pour la rejeter, voilà. Donc, à la source. Alors après, il y a des systèmes intermédiaires qui, dans notre situation, dans celle de 2020, permet d'avoir un système assez efficace où tu peux, rejeter encore, parce que tu vas trouver des moyens pour abaisser la température de ton rejet. Mais à partir d'une eau qui est encore à une température normale. Quand tu as une eau qui commence à s'élever, sachant que dans 2050, tu auras le débit qui sera donc sur le Rhône, qui aura baissé de 40% en moyenne. Donc l'eau, la température de l'eau, logiquement, je veux dire, moins d'eau, la température s'élève. C'est logique. Là, tu es aux limites du truc, et donc aux limites des systèmes qu'aujourd'hui on peut penser. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument trouver un système frigorifique à l'entrée, un système frigorifique à la sortie. Et donc, et tout ça sont des coûts de construction, des coûts et des coûts d'exploitation.
Et le coût énergétique, quoi.
Plus le coût énergétique. Alors bon, ton réacteur est supposé fournir l'électricité qui permet de faire fonctionner tout ça, mais ça n'empêche. Et puis, sachant aussi que déjà aujourd'hui, la perturbation du milieu. Des milieux humides par la prise et le rejet, la prise d'eau en amont et le rejet radiotoxique en aval a des conséquences, on le sait bien, sur les milieux, même si l'IRSN ne dit pas la vérité sur ces questions-là. Mais bon, l'IRSN a quand même, je rappellerai toujours, a quand même avoué un jour que, effectivement, sur la mesure du tritium dans les eaux de rejet, ils n'avaient pas les bons outils. Et ce n'était pas placé au bon endroit. Comme par hasard, c'est EDF qui s'en occupe. Voilà. Donc, et tout ça grâce à l'ARCO qui avait montré qu'à Chinon, il y avait plus de rejet de tritium que ce qui était annoncé officiellement.
La CRERAD en avait parlé de ça.
Oui, exactement. Et donc, on sait bien que l'accumulation de la radioactivité, et puis ils rejettent des produits chimiques, ils rejettent du fer, de l'aluminium, des trucs qui sont pas là naturellement dans les milieux. Donc comment affirmer que ça n'a aucune conséquence? Parce que ils le rejettent pas une fois, ils le rejettent depuis toujours, depuis 40 ans maintenant. Donc évidemment l'accumulation modifie les milieux. Et donc là on va avoir moins d'eau, plus chaude. Et on va continuer à rejeter de la même façon. Alors même si on abaisse la température de l'eau, mais avec moins d'eau, parce qu'on pouvait dire que bon, allez, le Rhône c'est une grande chasse d'eau et que tout ça part à la mer et c'est pas bien grave, c'est la mer. Mais non quoi. Donc voilà. Donc les problèmes environnementaux de l'exploitation des centrales nucléaires va être quintuplé, décuplé, enfin multiplié par 100 à cause du changement climatique. Et EDF peut dire, et elle le dit, qu'elle va dépenser 9 milliards pour réviser, mais c'est bidon. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le début de la solution. Oui, si, ils ont la solution pour aujourd'hui, mais ils n'ont pas la solution pour dans 30 ans. Dans 30 ans, ça sera impossible. Le refroidissement des réacteurs nucléaires sera une grande partie de l'année impossible. Sans dire, on n'en a rien à faire des normes. Alors, ça sera peut-être la solution qui sera choisie. C'est dire, nous, les normes, tout ça, on s'en tape. De toute façon, voilà, vous buvez de l'eau déjà au tritium, donc, voilà, vous en boirez un peu plus, et puis, peu importe, on fait ce qu'on veut, de toute façon, il faut de l'électricité.
Il en faut, puisque pour les superbes voitures électriques et tout ça, il va y avoir de plus en plus. Donc, il faut bien l'électricité pour les alimenter.
Honnêtement, tout est électrique.
Et l'informatique. avec le, les GAFAM.
Et surtout l'intelligence artificielle. Et les data centers.
Data centers, ça, oui, ça consomme énormément.
Ah bah, c'est monstrueux. Hein,
ça balance de la chaleur.
Je ne sais plus. Alors, pour le coup, je n'ai pas lu l'étude, mais j'ai vu des titres de presse disant que d'ici 2030, je crois, la consommation en eau des data centers sera la consommation en eau de l'humanité.
Oui,
mais avec le changement climatique, il y a moins d'eau potable disponible. Comment on fait, chef? Chef. Voilà, et on sait bien que la consommation électrique, dans un certain nombre, notamment aux États-Unis, dans des États, se pose la question de la consommation électrique, parce que les data centers ou les projets de construction de data centers épuisent les capacités de production, c'est-à-dire que les data centers vont passer devant la consommation humaine d'électricité, enfin les applications pour notre vie quotidienne, et que c'est les data centers qui sont plus importants. Ouais, ok. Donc on est mal barré.
Quand on fait une recherche, par exemple sur Google, elle consomme moins de, enfin pollue moins,
oui,
que si vous faites une demande. À l'IA, quoi.
Oui, enfin, exactement. Avec,
ah, bien sûr.
Donc, ça
oui, l'IA est extrêmement consommatrice.
Extrêmement. Non, on va l'utiliser de plus en plus, parce qu'en plus, on utilise l'IA, je veux dire, dans le quotidien, pour les maisons de retraite, pour les handicapés, pour les je ne sais trop
à
quoi.
À partir de septembre, dans les écoles, dans les lycées, à partir de la seconde, ils vont donner des cours pour que sur l'IA, pour que les élèves puissent se servir.
C'est une aberration, ouais, parce qu'ils préfèrent ça plutôt qu'à d'investir pour essayer de rendre les lycées et les collèges un peu plus vivables en temps de canicule ou en temps de d'infection, d'épidémie, d'infection et tout ça. Mais on le sait de toute façon, l'IA. Le développement de l'IA, et notamment le développement grand public de l'IA, n'est pas compatible avec la lutte contre le changement climatique. Il faut choisir. C'est soit l'un et on meurt tous, soit l'autre et on a une petite chance d'éviter de mourir. Oui. Aujourd'hui, le choix qui est fait par tous les grands pays, qui ont les moyens de se payer le truc, c'est de développer à toute vitesse l'IA et donc d'accélérer le changement climatique.
Notamment là.
Donc nos problèmes aujourd'hui de canicule, c'est pas bien grave. On n'a pas chaud aujourd'hui.
L'université
dans 20 ans, on aura froid aujourd'hui.
L'université de Dijon supprime la bibliothèque à partir du mois de septembre, ils vont supprimer la bibliothèque de la fac pour la remplacer par l'IA. C'est-à-dire qu'ils vont, ça va leur permettre de faire une économie de 2 bibliothécaires. Et ils vont faire une grande salle avec des ordinateurs, des beaux divans pour que les élèves puissent s'asseoir dedans.
La Startup Nation.
Avoir des boissons avec un bar, boissons, etc. Et le directeur de la fac de Dijon a dit, comme les enfants aiment bien les mangas, on leur mettra des mangas à disposition.
La moutarde me monte au nez.
C'est
hallucinant. Mais surtout quand on sait que la plupart des résultats donnés par l'IA, alors pour ce type de recherche, reposent en grande partie sur des sources fausses.
Ah bah oui.
Sur des fake news. Parce qu'elles s'alimentent principalement à tout ce qui circule.
Tout ce qui existe.
Fake news comprises. Et donc, évidemment, on sait bien que Grok a un certain penchant vers le bras levé façon Allemagne 1933, lié à son...
Bien sûr.
Mais même d'autres qui ne
avec
sont pas...
Avec des textes comme ça aussi.
Oui, mais même les autres mangent tout et donc sont influencés. Et on voit bien la perversité de ces fabriques à fake news, de ces usines à trolls, etc. Mais comme c'est populaire, ça prend le pas sur la vérité.
Bien sûr.
C'est ça. Et donc les IA transforment le monde en n'ayant que cette vision-là. Et donc des étudiants qui sont en phase d'apprentissage, leur bourrer le mou avec les saloperies qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les réseaux et d'une université, quoi. Bah, une université qui est là pour transmettre et développer le savoir. Pas l'IA, elle est pas. J'espère qu'ils vont lui déglinguer son truc, quoi.
Non. Non. Les historiens, les archéologues sont vent debout contre ça. Le directeur leur a dit oui, vous savez, la bibliothèque, il y a des vieux papiers poussiéreux, tout ça. Enfin bref, ça sert à rien, machin. Ceux qui sont en droit. Le droit, les profs de droit sont tout à fait pour l'IA parce qu'ils n'ont plus besoin de bouquins.
Je t'en raconterai une drôle.
Et en médecine, pareil, c'est les mêmes réactions. Donc là, ça se bagarre en ce moment. Il y a Isabelle, elle est à fond là-dedans.
Il y a des avocats qui ont commencé à rédiger des conclusions avec l'IA. Et en fait, les références, les jurisprudences étaient fausses. Ouais. N'existaient pas. Exactement. Voilà ce qui. Ouais. Non, c'est bien clair.
Mais l'IA, c'est exactement à la hauteur de notre société. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit aujourd'hui les médias qui sont rachetés, les médias, les maisons d'édition, enfin, les cinémas et ça, tout ce qui peut engendrer une réflexion.
La junk food.
Effectivement, c'est-à-dire que c'est ça l'IA. L'IA, c'est à l'image de Bolloré, tout simplement.
Ah bah, complètement.
C'est effectivement, on a des experts, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à où on remettait en question des gens qui sont vraiment des gens qui étudient, on les remet en question. On leur dit, ah non, c'est faux. Attendez, nous, on va vous envoyer des experts. Alors, experts, on sait ce que ça veut dire aujourd'hui, experts. Ça, c'est des gens qui... Voilà.
Tout à fait.
Et c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, on est dans cette société-là où, au lieu d'apprendre aux gamins à réfléchir, à remettre en question, à tourner des pages, à dire, non, mais attends, pourquoi il me dit ça, c'est quoi l'intérêt et tout, non, on leur dit, surtout, écoutez l'IA, tout est dedans, allez-y, vous avez juste à poser une question. Et c'est pas la même chose que d'aller voir une encyclopédie ou d'aller voir un bouquin, quoi.
Mets ton casque virtuel, câble-toi à la matrice et t'es dans Matrix, de toute façon.
L'avantage des bibliothèques, c'est que tu y vas pour chercher un bouquin. C'est comme une librairie. Oui. Tu y vas pour chercher un bouquin et tu ressors avec, ça se trouve, même pas le bouquin pour lequel tu es venu, et avec d'autres bouquins. Parce que sur tes rangs, tes rayonnages de bibliothèques, tu vas chercher, puis d'un coup, tu vas voir un bouquin, tu vas le prendre, tu vas dire, ah oui, tiens, ça a l'air intéressant. Et du coup, tu vois, ça va t'emmener à d'autres bouquins et d'autres auteurs. Et c'est ça, en fait. Alors que l'IA, tu poses une question, ils vont peut-être te filer une bibliographie aussi, hein, mais qui sera toujours dirigée, quoi.
Donc, voilà. Ouais, et surtout, c'est pas la bibliographie que tu cherches, c'est surtout la réponse rapide à une question, parce que tu veux pas faire l'effort intellectuel de faire toi-même ta recherche. Et moi, je vois, dans ma profession journaliste, moi, j'ai des confrères, consoeurs avec qui je m'entends bien par ailleurs, mais avec qui je commence à m'engueuler, parce que maintenant, tout passe par l'IA, et y compris la rédaction de papier. Et là, je me dis, non, mais il faut arrêter les conneries quand même. Je veux dire, la recherche, c'est toi qui l'as fait. Tu n'as pas besoin de l'IA. Tu fais un moteur de recherche. Les sources, c'est toi qui les trouves. Tu réfléchis. C'est toi qui vas appeler les gens, qui vas les voir. Et c'est toi qui écris ton papier, quoi. Tu ne demandes pas à l'IA d'écrire ton papier à ta façon. Non, ça, c'est du grand n'importe quoi. Et pourtant, c'est des gens que j'apprécie, mais qu'ils ne voient pas où est le problème. Ça paraît. Ben non, mais c'est super l'IA. C'est normal de l'utiliser. Ben non, d'abord, ça détruit la planète, c'est climaticide. Et puis, d'autre part, pense par toi-même, merde, quoi. On est payé pour ça. On n'est pas payé pour faire le travail par une machine.
Parce que les gens, ils veulent des choses clés en main. Que ce soit le programme politique, que ce soit pour un livre.
Ça t'évite de penser.
Voilà, c'est ça.
Clairement. Ça t'évite de faire des efforts.
C'est des paresses intellectuelles, quoi, tout simplement.
Oui.
Mais je m'interroge quand même sur pourquoi vouloir développer l'IA grand public alors que c'est, je veux dire, tout le monde peut, s'accorde sur le fait que ça ne peut être qu'une catastrophe. C'est quand même...
Parce que c'est plus simple après pour... une fois que tu conditionnes des enfants, enfin tout petits, hein, puisqu'on veut mettre des tablettes, etc. Dans les mains des gamins, ben, une fois que tu as fait ça, ben, du coup, le terrain est tout tracé pour ensuite, en tant qu'adulte, leur faire croire et leur faire avaler...
Leur faire n'importe quoi, ce que tu veux.
Ben, leur faire penser ce qui va aller dans ton sens à toi.
Oui, puis c'est... L'évolution technologique, de toute façon, a toujours fonctionné de la même façon, à savoir que la technologie est là pour simplifier la vie, donc on va te simplifier la vie au point que tu n'auras même plus à penser par toi-même.
Voilà, c'est ça,
ouais. On te dira ce qu'il faut penser, ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut dire. D'ailleurs, encore une fois, que tu reprends ton casque virtuel, tu le branches sur la machine, et on est dans Matrix. Aujourd'hui, cette vision du futur de Matrix est en train d'arriver, puisqu'on n'aura plus à penser, on n'aura plus à manger, tout nous sera fait, dicté. Il y a dans un certain nombre de pays asiatiques, alors pas encore européens, mais le développement des robots domestiques de compagnie est en train d'arriver.
Il se marie avec des robots,
on va être amené à arrêter l'émission. Tu passes l'annonce de, ou tu veux que je le fasse?
Tu veux dire laquelle?
L'annonce comme quoi pour l'anniversaire de Radio Libertaire.
Alors, Radio Libertaire, pardon. Fête ses 45 ans. Estidonia, donc 40 ans sur Radio Libertaire, en direct depuis la Générale et sur Radio Libertaire le 30 avril. Voilà, et ça sera à... Attendez, excusez-moi. Et ça, j'en veux pas dire, j'ai pas mis une lettre. Au 38 rue
Gassendi, dans le 14e à Paris.
Voilà. Et il y aura, ça c'est Epsilonia, et Femmes Libres, donc 40 ans sur Radio Libertaire, le 20 juin 2026. Mais ils sont tombés là. 14h à 18h, émission spéciale publique. Donc, c'est à l'espace Louise et Michel, 42 Terre, rue des Cascades, dans le 20e.
Bien, merci Thierry, merci,
merci à vous.
Chantal et Brigitte. On essaiera de se refaire un petit truc à la rentrée, si tu es encore
opérationnel.
T'es encore opérationnel. si t'as pas trop bu de... Remarque, tu dois aller peut-être te baigner dans le canal, non?
Moi?
Saint-Martin.
Non, ça va pas à la tête. Tu sais, l'un de mes grands amis était Marc Lémé. Hein.
Bien. Eh bien, bonsoir.
À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses, écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floque et de Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventruc en graisse, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitant de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est intègre, mais le populo leur dit, gouvernement de Ferry est un système pourri, cette Floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. même des socialistes, membres de comités, soutiennent les fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouges, bleus ou blancs, il faudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur fais des ripailles, toi peuple souverain, et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette flotte et le constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Ce Floc et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus gouvernement.
Ses enfants dans la rue de l'oubli. C'est la honte publique au cœur de la nation. La danse de l'argent dans la rue du profit. La danse de l'argent dans la rue du profit.
Je t'en prie, fillette. Surtout ne crois pas qu'un jour il y aura entre toi et moi rien de plus que ça. Car vois-tu, fillette, quand...
Panne de sens, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. Nous sommes quoi, le 4e lundi ? Deuxième et quatrième lundi, et je ne sais plus si aujourd'hui c'est le deuxième ou le quatrième, je suis perdu. En tout cas, on est là.
C'est le quatrième.
C'est le quatrième, voilà.
Je pense que le 22, c'est un peu trop loin du début du mois.
Oui, bah, avec cette chaleur, je suis complètement perdu, personnellement. Voilà. Alors, donc, ben, aujourd'hui, on est plus nombreux que d'habitude. Nous allons commencer par les nouvelles recrues, Léo et Léonore.
Bonjour.
Voilà, tu étais avec nous la dernière fois, mais côté technique. Et aujourd'hui, tu vas nous faire le plaisir de parler dans le micro. Donc, c'est super.
Tout à fait.
Il y a Camille qui est avec nous, mais qui n'est pas derrière le micro. Et voilà, elle fait de la radio par signe. donc, bonjour Camille quand même. Salut Yann.
Salut, salut.
Bon. Et bonjour Sébastien.
Salut tout le monde.
Alors, on va faire, comme à notre habitude, commencer par des actus marquantes, les trucs qui se sont passés dans l'actualité et qui nous ont marqués. Qui commence ? Sébastien ?
Allons-y. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, je m'étais réjoui dans l'actualité de début d'émission, que François Bayrou ne soit pas réélu maire de Pau. J'avoue, c'est pas très gentil de ma part. Et je me disais en fait que maintenant qu'il était sans mandat et condamné à la retraite, on ne l'entendrait plus. Mais c'était sans compter sans la graphomanie des élites politiques qui sont forcées au retrait de la vie publique. Et donc, François Bayrou nous a pondu un livre qui est sorti le 18 juin, qui voilà. N'est pas un appel, hein.